Bien, alors merci d'être là. Je vais vous parler de l'art du peu. Donc je pourrais me limiter à peu de choses. Hein. C'est ce que, à quoi invite le titre. Bon, le silence étant supérieur à toute parole, hein, on pourrait dire, ben voilà, la conférence est terminée. Hein. Vous pouvez partir parce que, effectivement, comme le dit Lao Tzu au début du Tao Te Ching, celui qui parle ne sait pas, celui qui sait ne parle pas. Vous voyez ? Bon, donc, voilà. L'art du peu. Malgré tout, nous devons parler. Vous savez, Edmond Jabès disait « Dieu et le silence qu'il nous faut rompre ». C'est vrai que pour dire Dieu, pour reprendre la discussion que nous avons eue avec Bernard lors du repas, eh bien, il faudrait être mystique. Et mystique, ça veut dire « qui se tait hein ». Mystique grec muein, hein, c'est le même mot que vous avez dans myope. Myope, c'est celui qui cligne les yeux pour mieux voir, vous voyez. Hein. Donc le muein, c'est fermer sa bouche. Hein. Donc le mystique se tait. Hein. Et finalement, Dieu excède tout langage, toute parole, ou comme on dit en grec, tout logos, vous voyez. C'est ce que l'on appelle, à l'heure d'un mot savant, la théologie apophatique, hein, apophatique, apophase, qui veut dire dénégation, hein, qui veut dire refus de parler, vous voyez. Bon, alors malgré tout, nous devons parler. Favete linguis, comme on disait en latin, c'est-à-dire faites attention à vos langues. Mais si je ne disais rien, on dit aussi « mutus tutus ». Vous voyez comme c'est beau le latin. On change de lettres. Hein. « Mutus tutus ». Celui qui est muet, il est en sécurité. Celui qui dit rien, il ne risque rien. Vous voyez ?« Mutus tutus ». Il faut faire du latin. Hein. Regardez comment on dit beaucoup de choses dans si peu de lettres. C'est un jeu de mots hein, qu'on appelle une paronomase. Voilà. Alors, cet art du peu. Alors, il faut savoir rire un peu. Hein. C'est art du peu. Bon, l'école publique, pour augmenter le vocabulaire des enfants, dit qu'il faut développer les idées. Hein. C'est-à-dire que, bon, étant donné un substantif, il faut y ajouter un qualifiant, que ce soit un adjectif ou un adverbe, etc. Hein. Donc, on développe. Le reste nous semble trop squelettique. Trop sommaire, vous voyez. Alors au départ, c'est louable. Et on nous dit qu'il faut développer ce qu'on appelle alors la caractérisation. Alors, ce sont des mots peut-être difficiles. Comment caractériser, c'est définir, borner, limiter ce que l'on veut dire au moyen de... je viens de dire borner, limiter. Oui, j'anticipe. On croit au contraire que c'est développer. Hein. Alors on caractérise. Ces caractérisants seront soit des adjectifs, qualificatifs, soit des adverbes, soit des relatives, etc. L'homme tout seul, c'est un nom. Hein. L'homme qui est venu, c'est caractérisé, vous voyez. Le grand homme ou l'homme grand, c'est caractérisé, vous voyez. Et l'homme tout seul, justement, relève de cet art du peu hein, que je défends au moins dans un premier temps. Donc, on va développer... Et on croit que l'on gagne, mais en fait, on peut perdre. Parce que si je définis justement quelque chose, je vais la borner. Définir vient du latin finis, qui veut dire frontière. Je mets une frontière. Hein. Si je précise, je peux tuer aussi la chose que je veux dire. Préciser, ça vient du latin caedere, qui a donné en français oxyre, vous voyez, oxyre, donc... Définir, borner, limiter. Quand je dis de quelqu'un qu'il est limité, c'est pas un éloge, vous comprenez hein? Donc, je veux bien dire que quelque chose d'essentiel peut lui échapper. Hein? Donc, c'est très ambivalent cette caractérisation. Elle croit augmenter, et en réalité, elle peut limiter ou borner. Est-ce que c'est clair jusque-là? Bon, il me semble. Hein? De toute façon, je vous donnerai la parole tout à l'heure. Par exemple, si je dis à quelqu'un « je t'aime bien », bon, eh bien, cette personne, si elle m'aime, si elle était amoureuse ou voudrait de moi, elle va mal le prendre. Parce que « je t'aime » est supérieur à « je t'aime bien ». Vous voyez ? Donc, le jeu de la marguerite, « je t'aime un peu, beaucoup, etc., passionnément, à la folie, pas du tout », il est inconnu des vrais amants. Hein, les vrais amants n'aiment pas ça, parce que en amour, vous savez, quand la comparaison entre par la porte, l'amour s'en va par la fenêtre. Hein. Donc, quand vous comparez, quand vous commencez de comparer, eh bien, vous perdez l'essence, vous perdez le pouvoir ontologique du nom. Alors, un mot encore savant. Ontologique, ontologique, O-N, hein, ça vient du grec, qui a rapport à l'essence. Hein. Donc, il suffirait de « je t'aime tout court », en l'occurrence, plutôt que « je t'aime bien », parce que ça désole celui qui l'entend, se l'entend dire, hein, vous voyez. Autre exemple. Si je dis, en parlant d'un ami, « c'était un copain », il me semble que c'est beaucoup plus fort que si je dis « c'était un bon copain ». Alors, là, c'est plus complexe peut-être à comprendre, hein, parce que « bon copain » précise, hein, définit. Mes copains renvoient dans l'esprit à ce qui s'atteste quand je prononce le nom copain. Quelqu'un qui mérite d'être appelé copain, vous voyez. Ça renvoie à une essence, ou comme on dit, alors Bernard me dirait à propos de Jung, un archétype, une essence. Donc les archétypes ou les essences sont dans les noms eux-mêmes, hein. Ils ne sont pas dans les qualifiants. Le qualifiant manifeste ce que j'appellerais une chute ontologique. Alors, mot savant. La chute ontologique, bon, je m'appuie là sur Heidegger, dans l'être et le temps. Hein. Bon, la chute, c'est la chute de l'être dans l'étang. Alors, faites pas de fautes d'orthographe, c'est pas plouf, je plonge dans l'étang. Hein. C'est le participe présent du verbe être, hein, l'étang, hein, vous voyez, dans le jargon de Heidegger, vous voyez. Hein. Donc, qualifier, c'est un moins-être. Hein. Regardez, vous connaissez tous l'anecdote de Diogène qui se promenait dans Athènes en plein jour avec une lanterne allumée. Alors, les Athéniens lui disaient, mais Diogène, pourquoi tu te promènes comme ça avec une lanterne allumée alors qu'il fait plein jour? Alors, que répondit Diogène? Il répondit, je cherche un homme. Bon. Alors, ne croyez pas qu'il ait eu des mœurs spéciales, ce Diogène, hein? Pas du tout. Il voulait dire qu'il cherchait quelqu'un qui fût digne du nom d'homme, d'être appelé homme. Vous voyez? Et homme est plus fort que méchant homme ou mauvais homme ou à l'inverse, homme remarquable. Vous voyez? Je cherche quelqu'un qui correspond à la définition, hein, à ce qui s'atteste dans l'esprit quand je prononce le nom. De même, quand je dis une femme est une femme, hein, ou bien Paris sera toujours Paris, hein, ou bien ma vie n'est pas une vie, hein, ou bien Rome n'est plus dans Rome, comme Dubélé dans Les Regrets, qu'est-ce que je fais? Je ne fais pas une tautologie. Tautologie, c'est dire la même chose, hein, dire la même chose. Tautolegein, hein. Bon, les vérités de la palisse sont des tautologies. Mais si je dis une femme est une femme, j'oppose deux états différents du langage et donc du phénomène. Une femme, c'est-à-dire circonstancielle, celle que je peux voir dans la rue, etc., est une femme, c'est-à-dire elle correspond à l'image idéale de la femme, à l'archétype de la femme, vous voyez ? Pareillement à ce que Jung appelle l'anima, par exemple. Hein. Donc Bernard pourra nous dire ce qu'il en est de l'anima jungienne. Alors, Paris sera toujours Paris, c'est pareil. Paris, c'est la capitale de la France, etc. Mais sera toujours le Paris idéal, hein, que j'ai dans l'esprit. Hein. Alors là, ça renvoie, je dis idéal, ça renvoie à Platon et à ses idées. Parce que vous savez que pour Platon, ce que nous voyons n'est que de l'apparence. À midi, lors du repas, nous allons parler de la Maya dans l'hindouisme. Le jeu des apparences, la diaprure, hein, des apparences. Bon, eh bien, il faut déchirer le voile de Maya, donc pour voir les essences, en quelque sorte. Hein. Ce point de vue, la métaphysique platonicienne et celle de l'Inde, de l'hindouisme, sont comparables, si vous voulez. Hein. Voir les essences. Alors, Rome n'est plus dans Rome. Dubélé a une idée de la Rome antique qu'il connaît, la Rome idéale, eh bien, il va à Rome, qui le déçoit, hein, et il dit, la Rome idéale n'est plus dans la Rome que je vois maintenant. Et ainsi de suite. Seulement, il faut une certaine habileté mentale pour comprendre ce phénomène, c'est-à-dire la répétition d'un mot en affectant chaque fois à ce mot un sens différent ou une valeur sémantique différente, vous voyez. Alors, ce phénomène s'appelle en stylistique ou en rhétorique une antanaclase. Alors, mot aussi, comment dire, savant. Alors, faites attention, ces figures de rhétorique, c'est pas des noms de maladies, hein. Par exemple, vous faites une antanaclase, ou bien vous faites une hypotypose, ça ressemble à myxomatose, etc. Bon, non, ce ne sont pas des mots barbares non plus, ce ne sont pas des monstres préhistoriques non plus. L'antanaclase, en grec, antanaclasis, ça veut dire répercussion sonore ou reflet visuel, c'est les deux, hein, reflet. L'exact équivalent formé à partir du latin serait réverbération. De werberare, je frappe, réverbération. Donc, le langage miroite. Hein. Vous voyez, un homme est un homme, une femme est une femme, le langage miroite, hein, et oppose toujours une circonstance qui est forcément inférieure à une essence qui, elle, est primordiale. Vous voyez, à une essence archétypale. C'est ça, l'antanaclase. Alors, il faut de l'habileté pour la saisir, pour faire ainsi miroiter le texte. Sinon, vous y voyez une stricte tautologie, vous voyez. C'est-à-dire, on dit toujours la même chose. Les vérités de la Palisse. Vous avez entendu parler des vérités de la Palisse, hein. C'était un certain Jacques Chabannes, qui, après la bataille de Pavie, est mort, hein, et qui est passé, alors, comte de la Palisse, il est passé sous le nom de la Palisse, parce qu'on a composé une chanson après sa mort. Hélas, la Palisse est mort, il est mort devant Pavie. Hélas, s'il n'était pas mort, il serait encore en vie, vous voyez. Hein? Bon, il est mort le vendredi, au plus beau jour de son âge. S'il fut mort le samedi, il eût vécu davantage, etc. Vous ne savez pas cette chanson de la Palisse, hein? Bon, alors on peut effectivement enchaîner les tautologies comme ça, hein. On répète comme les Dupont, j'ai tenté les Dupont d'entre eux, et je dirais même plus, en fait, ils disent rien de plus, les Dupont, hein, bon, voilà la tautologie. Alors il faut échapper aux tautologies pour atteindre les antanaclases. Vous voyez, belle formule, hein, je ne sais pas ce que vous avez. Échappons aux tautologies pour aller vers les antanaclases. Alors, allez pas dire ça dans la rue, hein. Bon, on disait à midi, aussitôt, ben, c'est le SAMU et la Colombière, hein. Bon, ça c'est sûr, hein. Bon. Voilà. Je crois que, il faut pas avoir peur de ces mots, il faut voir ce qu'ils veulent dire, hein. Ils opposent toujours l'essence, hein, et l'accident. Donc, cet art du peu que je défends va aller vers les noms eux-mêmes, hein. Si on est bien capable de faire ce travail d'accommodation, hein. Ou comme on est en photographie, alors là, moi je suis photographe, Joël m'accompagne aussi et d'autres aussi le savent, ce que c'est que la mise au point mentale, hein. La mise au point photographique, c'est la mise au point sur un sujet. Mais l'esprit, lui, il n'est pas autofocus, hein. Et là, il lui faut faire une mise au point mentale, un travail d'accommodation, et savoir opposer l'essence à l'accident, par exemple, vous voyez, hein, savoir distinguer les deux plans. Ce sont des confrontations de plans. Bon, allons donc vers les archétypes, vers ces grandes idées instituantes qui sont comme des miroirs dans lesquels nous pouvons nous refléter. Hein. Sinon, nous ne sommes que des morts vivants, finalement. Hein. Vous savez qu'un vampire ne se reflète jamais dans aucun miroir. Hein. Bon. C'est le propre du vampire. Et lorsque quelqu'un meurt, on voile les miroirs dans les chambres des morts. Hein, vous voyez. Donc, c'est intéressant, ça. Ça veut dire que nous sommes vraiment humains que lorsque nous avons un miroir instituant où nous nous reflétons réellement, essentiellement. Et le reflet est beaucoup plus probant que le réel. Bon, tous les photographes et tous les peintres vous le diront. Regardez un paysage dans un petit miroir, ça a une valeur ontologique, une valeur essentielle, beaucoup plus grande que le paysage regardé à l'œil nu. Ne serait-ce que parce que l'image est encadrée par le miroir, vous voyez. Donc, les miroirs sont à valoriser par rapport à la perception banale, visuelle. Baudelaire dit les miroirs profonds comme des tombeaux, vous voyez, des miroirs profonds, hein. Bon, profond, la profondeur du miroir. Alors, il faut donc aller vers les archétypes. Et alors, comme moi je suis très interdisciplinaire, J'ai développé ça lorsque je me suis intéressé à la spiritualité des gnostiques, hein, dans un livre qui s'appelle « Une voix nommée Jésus, l'évangile selon Thomas », qui est publié chez Dervy. Eh bien, le rédacteur de l'évangile selon Thomas nous dit que il faut correspondre au modèle qui était en nous depuis le commencement, hein, depuis le début, et qui demeure, hein, qui ne se manifeste pas de façon éphémère. Correspondez à votre modèle, deviens ce que tu es. Hein. Voilà, se disait Nietzsche. Hein. Donc, être en adéquation à ce modèle. Et ce modèle, c'est le nom, justement, qui l'indique. Donc, vous voyez que tout se tient. Peut-être vous vous attendiez à avoir quelque chose de pur stylistique, mais non, en fait, je pourrais parler de religion, de spiritualité. Tout se tient dans le monde de l'esprit. Il n'y a pas de domaine indépendant de l'autre. Vous voyez ? Alors, il faut donc élargir un texte qui ne doit pas être emprisonné par la caractérisation. Qu'est-ce que ça veut dire élargir ? On le dit d'un prisonnier. On élargit un prisonnier, c'est-à-dire qu'on le libère. Vous voyez ? Alors, on va le libérer. Pourquoi ? En récusant en lui tout ce qui est fioriture. Et par exemple, la rhétorique. Alors là, je ne sais pas, est-ce que vous suivez, est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Oui. Parce que, bon, on peut piquer du nez, c'est vrai. Vous êtes, si vous piquez du nez, comme moi aussi, heureusement que je parle, c'est que vous êtes atteint de narcolepsie postprandiale, hein, c'est-à-dire de l'envie de dormir après le repas, hein, la narcolepsie postprandiale. C'est un monstre philologique puisqu'il mélange le grec, narcolepsie, et le latin postprandial, prandium, c'est le repas. Hein. Là, vous êtes atteint de narcolepsie postprandiale. C'est pas grave, ça se guérit. Hein. Alors, revenons à notre fameuse rhétorique. L'empire rhétorique, les fleurs de rhétorique, ces fleurs, ces fioritures. Il y en a qui, certains croient que pour bien écrire, il faut rhétoriser. Hein. Alors, ils vont pas dire, ils vont utiliser des périphrases, periphrasein, c'est-à-dire tourner autour, periphrasein, hein, dire autour. En latin, on dirait circonlocution, circumloqui, hein, à partir du latin. En grec, périphrase, on tourne autour, c'est une circumambulation. Alors on ne dira pas le mauvais temps, on dira l'inclémence du temps, vous voyez, des choses comme ça. Donc on croit que c'est meilleur. On ne dira pas la lune, la lune, bon, on dira et le char vaporeux de la reine des ombres. Voilà, hein, Lamartine, bon. Lamartine, c'est un homme, Lamartine, attention. Hein. Donc, finalement, on croit que c'est plus beau. Hein. Mais, vous savez, la rhétorique, c'est comme le mariage. Ceux qui sont dehors veulent y entrer, et ceux qui sont dedans veulent en sortir. Vous voyez, hein. Bon. C'est-à-dire, quand on l'a bien expérimenté, la rhétorique, quand on connaît tous ces détours, je sais de ces palais, tous les détours obscurs, pour reprendre un verre de Racine, hein. On en a assez de la rhétorique, hein, et on veut en sortir. Mais quand on ne la connaît pas, on veut y aller dedans, on veut y aller. Et alors on va faire usage de ces fameuses fleurs, de ces fioritures, les fleurs de rhétorique. Il y a un livre essentiel là-dessus, le livre de Jean Paulhan, qui s'appelle « Les fleurs de Tarbes », hein, ou « La terreur dans les lettres », hein. ». Donc, si vous êtes à l'intérieur de la rhétorique, eh bien, vous n'avez de cesse que de vouloir vous en évader. Hein. Alors, quand il pleut, qu'est-ce qu'il faut dire? Si vous pouvez rhétoriser, Baudelaire, par exemple, hein, quand la pluie étalant ses immenses traînées d'une vaste prison imite les barreaux, etc., dans un spleen. Bon, ça, c'est rhétoriser, c'est bien. Mais, une fois que vous sentez ces fleurs de rhétorique comme stérile, bon, on ne peut pas aller plus loin, hein, que des Baudelaire, à ce moment-là, vous pouvez en sortir. Hein. Bon, et alors, donc, il faut dire, quand il pleut, qu'est-ce qu'il faut dire? Eh bien, il faut dire, il pleut, tout simplement. Bon, tout simplement. Alors, vous allez me dire, mais n'importe qui peut le dire. Eh oui, n'importe qui peut dire, il pleut. Hein. Mais, il y a deux façons de dire, il pleut. Hein. Une façon qui est ignorante de tout ce monde rhétorique, et une façon qui veut sortir du monde rhétorique. La première façon est pauvre de ce qu'elle ignore, et la deuxième est riche de ce qu'elle a refusé. Vous comprenez, hein? Bon, c'est une énigme. Et alors, si vous dites il pleut, à ce moment-là, vous aurez l'essence de la pluie. Hein? La pluie. Alors là, vous penserez peut-être à Verlaine, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville, etc. Il pleut. Mais par exemple, dans le midi, il ne pleut pas. Je regrette. Dans le midi, il ne pleut pas. Il tombe de l'eau dans le midi. Hein. Bon, vous n'avez pas la pluie. Hein. La pluie, c'est autre chose. Hein. Oh, le chant de la pluie par terre et sur les toits pour un cœur qui s'ennuie. Oh, le chant de la pluie, etc. Hein. Vous voyez, on a assisté récemment à ces cataractes. Hein. Ça n'a rien à voir avec la pluie. Vous voyez. Alors, on va avoir beaucoup de bénéfices à la raréfaction des signes. On va limiter le lexique, on va limiter le vocabulaire, limiter tout, hein, et on en gagnera beaucoup. Parce que tout ce qui étoffe, étouffe, vous voyez. Hein, vous savez qu'on respire mieux dans une pièce où le mobilier est minimal. Hein. Si vous entassez trop de choses, à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle en latin l'horror vacui, la haine du vide, l'horreur du vide, vous voyez, hein. Et c'est le propre du kitsch, par exemple, hein, où on empile des objets, justement, parce que on s'imagine vivre à travers eux. Mais non, on respire mieux quand il y a le moins de choses possibles. Hein. Un autre exemple. Pour faire du feu, si vous voulez faire du feu, vous n'allez pas entasser les bûches les unes sur les autres. Vous allez ménager entre les bûches des interstices par où l'air puisse passer pour que le feu puisse prendre et pour que la cheminée tire, vous voyez. Hein. Eh bien, pour écrire, c'est pareil que faire du feu. Il faut ménager des blancs, il faut ménager des respirations. Alors la poésie, vous le savez très bien, elle vit de tout le blanc qui entoure les quelques mots qui sont sur la page. Hein. Donc ce blanc va faire respirer le texte. Beaucoup plus que si tout était surchargé. Il faut donc que le texte est ce qu'on appelle en latin une aura, A-U-R-A. Alors je pense qu'en spiritualité, l'aura, Bernard nous le dira peut-être, est autre chose. L'aura, je ne sais pas. Pour moi, l'aura, A-U-R-E-A, hein, c'est quand le texte décolle, vous voyez. Quand le texte décolle comme un avion, vous voyez. Hein. Alors, je vais vous donner deux vers d'Apollinaire. Un qui n'a aucune aura et le second qui a une aura magnifique, hein. Apporte le café, le beurre et les tartines. On dirait que le vent dit des phrases latines. Vous voyez la différence, hein? Mais il le fait exprès, Apollinaire. Il le fait exprès. C'est d'utiliser du prosaïsme pour le faire contraster avec le texte qui va décoller. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour décoller, hein? Eh bien, il faut s'alléger. Vous savez qu'un ballon dirigeable, pour s'élever, il faut lâcher du lest. Hein? Donc, vous devez vous alléger pour justement que le texte prenne de la hauteur. Et alors tout se tient ici, puisque je vais parler pour terminer du haïku, c'est une forme poétique japonaise. Au Japon, vous connaissez l'ikebana, ou l'art du bouquet. Eh bien, on vous fait un bouquet avec trois tiges, c'est tout, hein, de longueur inégale. Il y a peu de choses, hein. Le minimum pour que l'air puisse circuler, l'air, l'énergie doit circuler entre les tiges, ce qu'ils appellent le ki, K-H-I, que vous avez dans Aikido, etc. Hein, bon, la voie du souffle, hein, le souffle, l'énergie. C'est l'équivalent en chinois du qi chinois, hein, dans le tai chi chi chuan, vous voyez, hein, le qi. Qi ou qi, c'est pareil. Hein. Bon, alors l'énergie doit circuler, le souffle, hein, ce souffle dont on ne sait ni d'où il vient ni d'où il va, mais dont on entend la voix, comme le dit l'évangile de Jean, hein, au début. Alors, à ce moment-là, il faut, quand on fait un bouquet, ne pas surcharger le bouquet. Et si vous opposez à ça les bouquets occidentaux, vous apercevez qu'ils sont complètement surchargés jusqu'à l'étouffement. Vous voyez les bouquets peints par Bruegel, par exemple. Hein. Vous avez un amas de fleurs, hein, et l'air ne peut pas circuler entre eux. Hein. Donc, Pour en prendre notre exemple, l'art des jardins. Hein. Eh bien, si vous prenez un jardin zen, vous avez simplement quelques graviers avec quelques cailloux disposés de façon inégale, ça et là, et chaque jour, le moine se contente de ratisser les graviers. Tandis que chez nous, nous avons dans nos jardins très souvent la tentation de la luxuriance, de l'empilement des végétaux, vous voyez. Donc, eux sont hantés par ce fameux vide. Hein. Le vide, Valéry disait, nos plus profonds regards sont pour le vide. Alors, finalement, tous ces exemples vous indiquent une direction. Alors, comme le temps m'est mesuré, puis je veux que vous parliez aussi un petit peu, je pense que on peut illustrer tout cela au moyen des haïkus. Alors j'ai mis dans le fond de la salle plusieurs de mes haïkus, des haïkus qui viennent en dessous d'une photo, face aux photographies de Joël, hein, au fond de la salle, vous les verrez. Le haïku, c'est une forme très brève qui est formée de 5 syllabes, puis de 7 syllabes, puis de 5 syllabes. Alors bien entendu, je ne connais pas le japonais, hein, donc peut-être que je vais dire est très approximatif, hein. Mais je me suis évertué de faire des textes très courts, 5, 7, 5. Hein. Et j'ai mis très souvent, alors surtout dans le panneau de gauche, sur les trois panneaux, l'équivalent de ce que ça serait en poésie occidentale, vous voyez, en poésie occidentale. Et j'aime bien confronter les deux. Alors, je vous montre de loin un peu, vous voyez, une photo qui est très brève, qui est très laconique. Laconique, ça veut dire qu'il dit très peu de choses, hein. Très peu de choses. Bon, elle est prise au téléobjectif. C'est grâce au téléobjectif qu'on obtient ce laconisme. Le téléobjectif resserre le champ, hein, et il le met suivant la focale, il le mettra à 15 degrés, etc., alors que nous voyons à 45 degrés. Hein. Il écrase la perspective, il n'y a pas d'impression de profondeur, hein, donc il n'y a pas de point de fuite perceptible. À la différence du grand angle qui, lui, gueule, je dirais, pour reprendre une expression de Cartier-Bresson, le grand angle gueule, hein, puisque ouvert à 28 mm, par exemple, en format 24-36, eh bien, il va plutôt vers l'hyperbole que vers la litote. Alors, encore des mots savants. Hyperbole, c'est une exagération. Hein, une exagération. C'est relatif, l'hyperbole, hein, attention. Quand un mendiant vous dit « je n'ai rien à me mettre », c'est une vérité. Quand une femme vous dit « je n'ai rien à me mettre », c'est une hyperbole. Vous voyez, tout dépend de la situation d'énonciation. Vous voyez, bon. Alors, excusez la misogynie du propos. Hein. Voilà, alors, qu'est-ce que j'ai proposé là ? Haïku. Alors, entre ciel et eau, flotte un rocher solitaire, souvenir d'été. Voilà, c'est tout. Entre ciel et eau, flotte un rocher solitaire, souvenir d'été. Alors après, je me suis amusé de mettre une version occidentale. Entre le ciel et l'eau, souvenir de la terre, un tout petit rocher surnage solitaire. Tel suis-je dans ma vie flottant parmi mes doutes, tant en ai-je vécu tout au long de ma route. Alors vous voyez dans le deuxième vers, dans la deuxième version occidentale, une invasion du moi, une prolifération du moi, hein, ce que j'appelle le tout à l'ego. Hein. Voilà, donc il faut se méfier de ce moi. Hein. La littérature dans l'art du peu, c'est la fin du moi. Alors attention, moi, MOI, attention, la fin du mois. Donc, la fin du mois fait souvent peur aux gens. Hein, bon. Donc, nous humectons toute chose de sens. Hein, nous voulons trouver. Alors, je parle des doutes, je parle. Voilà. Bon, mais quel besoin ? Bon, je préfère de loin, entre ciel et eau, flotte un rocher solitaire, souvenir d'été. C'est tout simple. Hein. Alors, le reste, on peut l'imaginer en soi, mais pourquoi le dire ? Parce que nous humectons toute chose de sens. Alors, si vous voulez avoir des bons développements sur le haïku, lisez le livre de Roland Barthes qui s'appelle « L'Empire des signes », hein, où il parle de son voyage au Japon et où, effectivement, il est revenu fasciné par cette forme. Nous voulons toujours répondre aux choses. Alors, donner du sens. Alors, si je mets « souvenir d'été », bon, vous allez me dire « pourquoi j'ai mis « souvenir d'été » ?» Bien, parce que j'élargis, là. D'abord, les Japonais sont très sensibles aux saisons. à l'atmosphère, ce qu'on dit le mood, c'est l'ambiance, l'atmosphère des saisons, dont les haïkus, on les classe souvent par haïkus du printemps, haïkus de l'été, haïkus de l'automne, haïkus de l'hiver, d'accord. Et puis aussi, de mettre souvenir d'été, c'est un peu parler à côté, si vous voulez. Mon rocher solitaire, entre le ciel et l'eau, c'est parler à côté. Et c'est très utile de savoir parler à côté. Vous savez, dans le bouddhisme zen, le zen, c'est la version japonaise du bouddhisme, hein, avec le bouddhisme est né en Inde, mais comme nul n'est prophète en son pays, il est monté après au Tibet, au Népal, ensuite en Chine, sous le nom de Chan, puis il est allé au Japon, sous le nom de Zen. Alors, dans le bouddhisme zen, on cherche à savoir, par exemple, où est Bouddha. Alors, l'apprenant, le disciple, dit à son maître, où est Bouddha? Alors, que répond le maître? Le cyprès est dans la cour. Alors là, on tombe là-dedans, bon, le cyprès est dans la cour. C'est ce qu'on appelle la technique du koan, K-O-A-N, hein, c'est-à-dire répondre à côté. Alors, le maître veut faire comprendre au disciple qu'on ne peut rien dire de Bouddha, on ne peut rien dire, et que la meilleure réponse est une réponse à côté, hein. Pas la peine de vouloir dégager du sens de tout ce qui est visible. Et alors, je vous donne pour terminer un dernier exemple. Voici une autre photo très laconique, un petit arbre, hein, une montagne. Alors, moi j'ai imaginé un haïku qui serait « Entre terre et ciel se dresse un petit arbre, pourquoi solitaire ?» Bon, voilà, tout simplement. Alors, version développée, qui serait d'inspiration plus occidentale. Infime notre taille, infime notre place, pourquoi récriminer sur un commun destin? Quand sera-t-il de nous achever notre trace? Et d'autres après nous suivront même chemin. Vous voyez, c'est un quatrain. Bon, moi je préfère bien sûr le premier, hein, mais parce que l'interrogation doit être préférable à la réponse, comme l'ombre est préférable à la clarté. Un autre livre essentiel à lire, c'est le livre de Junichiro Tanizaki qui s'appelle Éloge de l'ombre, hein, qui est dans la collection de l'UNESCO, des œuvres représentatives de l'UNESCO d'Extrême-Orient. Vous voyez, Éloge de l'ombre. C'est très important, l'ombre, la pénombre. Vous savez que l'endroit le plus érotique d'un corps est celui où le vêtement bâille. Hein. Ce que l'on devine est beaucoup plus important que ce que l'on voit. Hein. Et les véritables amateurs d'érotisme ont horreur du nudisme, par exemple. Hein. Bon, ça, c'est horrible, parce que c'est trop direct, trop franc, trop frontal, si vous voulez. Hein. Donc, il faut que le texte bâille, il faut laisser les choses, il faut laisser à désirer. En français, laisser à désirer, c'est péjoratif, ça laisse à désirer. Eh bien, moi non, je pense que cette expression, elle est essentiellement positive. Il faut laisser à désirer, c'est-à-dire dire le moins, hein. Moins donne plus, si vous voulez. Il faut laisser à imaginer. Alors, je ne conclurai pas, par définition, hein. Je parlerai, selon la formule de Flaubert, de l'ineptie de vouloir conclure, vous voyez. Alors, pour terminer, je vous engage à regarder mes haïkus, hein, mais maintenant, je vais faire circuler, si on a encore 5 minutes, le micro pour que vous puissiez poser vos questions. Merci de votre attention.